Pulsar
95.9.
Bonjour et bienvenue sur All I Wanna Do, l'émission hebdomadaire qui vous fait découvrir les porteurs et porteuses de projets innovants ou éthiquement engagés de la Vienne. Je m'appelle Hildegarde et c'est moi qui vais vous embarquer chaque semaine dans cette saison de rendez-vous radio. Alors, mobilier décalé et design sur mesure, c'est ce que l'on peut trouver dans l'atelier de travail du bois d'Arnaud Lenné, menuisier poitevin qui nous révélera aujourd'hui les arcanes de son métier passionnant. Juste après, ce sera au tour d'Ophélie Couré, notre chroniqueuse à la mission locale d'insertion du Poitou, de nous faire découvrir Team Job, l'action de sa structure visant à fédérer la jeunesse autour de journées d'e-sport. Mais tout de suite, parlons écologie et zéro déchet en partant à la rencontre de Farida Barra, qui a pour projet la confection d'une gamme de couches lavables. Bonjour Farida.
Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole.
Je t'en prie. Alors, comme je viens de le dire en introduction, tu prévois le lancement d'une gamme de couches lavables dans le contexte d'un projet intitulé La Petite Fabrique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur celle-ci ?
Oui. En fait, mon projet, ça va être de la confection de couches lavables pour bébés. Mon objectif, ça va être de l'insertion professionnelle de femmes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville avec ce projet. En résumé, ça va être un projet de confection de couches lavables qui va se situer dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et bien sûr, ça va être, ça va être de la location de couches lavables assortie d'un service de ramassage de ces couches et d'une blanchisserie. Voilà, c'est ça le résumé de mon projet.
D'accord, donc on n'est pas sur de la mise en vente, on est vraiment sur un système de location complet, c'est ça ?
C'est ça.
Et dans quel sens ton projet permettrait d'aider à la réinsertion des femmes de ce quartier prioritaire ?
En fait, l'objectif, c'est de faire travailler des femmes qui sont dans les quartiers, comme couturières, par exemple, parce qu'au niveau du quartier, il y a des couturières, mais voilà, elles ne sont pas vraiment formées. Bah, on va former ces femmes et après leur donner un travail dans ce projet.
D'accord, donc en plus de répondre à un impératif écologique, ton projet répond à un besoin social. Mais si on parlait un petit peu d'écologie, quel est ton parcours dans ce domaine ?
Moi, d'abord, je suis étudiante. En fait, je suis étudiante en Master 2 à l'Université de Poitiers en transition environnementale et sociétale. Je pense que voilà, le choix de ce master répond à la question. Mon objectif, en fait, j'ai vraiment un objectif. Je m'intéresse à tout ce qui est écologie depuis mes débuts. Et en même temps, je m'intéresse à tout ce qui est social. Du coup, j'ai essayé de répondre à ces objectifs avec ce projet.
Donc en fait, la petite fabrique s'intègre dans ton choix d'études. C'est un projet que tu devais créer au sein de ton master ?
En fait, mon projet, au niveau de ce master, on avait un stage de fin d'études. Et avec le service Pipit qui existe au niveau de l'université, en fait, on peut remplacer le stage avec un projet. Et c'est le choix que j'ai fait, en fait. J'ai remplacé le stage avec le projet.
Alors, tu l'as dit, tu as bénéficié de l'accompagnement de l'association Pépite, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type de suivi dont tu as bénéficié au sein de cet asso ?
Alors, quand on intègre en fait le service Pépite, on a un accompagnement de la part de professionnels qui sont habitués à accompagner des porteurs de projets sur tout ce qui est études du marché, sur tout ce qui est juridique et en même temps sur l'idée en elle-même. Ce que Pépite a fait, en fait, parce que j'ai intégré Pépite l'année dernière, ils m'ont aidé à me focaliser, vraiment à avoir une idée plus précise, parce que le projet, ce n'était pas exactement ça et ça a changé. En intégrant Pépite, ils m'ont aidé à fixer mon idée de projet, à savoir comment faire une étude du marché. Ils m'ont aidé aussi, ils m'ont présenté des professionnels qui sont dans le domaine du zéro déchet. En fait, c'est ça l'objectif de Pépite, c'est d'aider le porteur de projet à atteindre son objectif.
D'accord, et justement pour en revenir à ton projet, donc tu as dit que les travailleuses que tu emploierais donc seraient situées dans un quartier prioritaire, mais tu n'as pas précisé la ville, sur quel secteur sera active la petite fabrique ?
Alors, déjà, je vais revenir en arrière. En fait, avant de venir sur Poitiers, j'étais sur Tours. J'ai fait un master en géographie. Et dans le cadre de ce master, j'ai fait un mémoire de recherche sur l'engagement des femmes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et du coup, j'ai travaillé sur un quartier qui se situe à Jouy-les-Tours, qui est la Rabière. Et c'est là que j'ai découvert l'engagement des femmes dans ce quartier. Et je me suis intéressée à cette problématique de l'engagement des femmes. Et je voulais les mettre en valeur avec un projet. Et bah, c'est pour ça que je voulais intégrer ces femmes de ce quartier qui se situe à Jouy-les-Tours dans le projet que je veux faire avec les couches lavables.
D'accord, et comment tu fais du coup pour continuer à mettre en place ce projet depuis Poitiers?
Bah, avec le Covid, je pense que tout se fait sur Internet, même si c'est vraiment difficile, ça m'a vraiment retardé parce que ça a annulé plusieurs projets et plusieurs rendez-vous, mais ça va. Bah, je fais des déplacements sur Tours, je me suis déplacée la semaine dernière, je fais des déplacements, je rencontre des acteurs, les associations du quartier. Bah, voilà, je continue comme ça. C'est difficile, mais voilà, ça marche.
Donc par rapport aux services de location et de blanchisserie, tu aimerais faire appel à des acteurs déjà existants, c'est cela?
Dans un premier temps, oui. Déjà, quand je me suis déplacée à Tours la semaine dernière, j'ai cherché des blanchisseries. Elles sont assez éloignées du Tour Centre de Jouy-les-Tours, en fait. Et du coup, l'objectif maintenant, de se rapprocher d'une blanchisserie dans un premier temps et après intégrer notre propre blanchisserie dans le projet.
D'accord. Donc là, c'est un projet qui se situe donc à l'échelle, tu l'as dit, de Jouy-les-Tours dans le quartier de la Rabière, en Indre-et-Loire. Mais est-ce que tu as pour ambition de l'étendre à d'autres villes?
Oui. L'objectif maintenant, parce que je veux faire de l'économie circulaire, c'est pour ça, dans un premier temps, on va travailler avec des acteurs locaux au niveau de la région centre, mais après, pourquoi ne pas agrandir et faire le même projet dans d'autres villes? L'objectif, c'est de faire travailler les gens qui habitent dans la région. C'est-à-dire, s'il y a un autre projet, ben, on va faire travailler les femmes qui sont dans cette région et non pas, voilà, pour rester dans cette économie circulaire. Dans un
D'accord.
projet d'économie circulaire.
On
Ouais.
reste dans une dynamique locale. Et pour ce
Oui.
projet, je me demandais combien de modèles seront proposés de couches lavables?
Bah en fait, ça dépend. Là, ça dépend en fait, parce que là, on va lancer un test. Je vais lancer un test au niveau du quartier. Je vais juste faire. Je vais acheter des couches qui existent déjà, des couches sur des couches lavables, et je vais lancer un service de location. Pour voir en fait quelles couches préfèrent les parents, est-ce qu'ils acceptent cette idée de location, et c'est de là qu'on va essayer voilà, de fixer quel type de couche qu'on va mettre en location.
D'accord, mais est-ce que tu sais déjà quels matériaux vont être utilisés pour la confection? Ou c'est également quelque chose que tu vas réfléchir plus tard?
Bah, en fait, il y a différents types de matériaux. Bah, bien sûr qu'on va essayer de faire, on va essayer au maximum d'utiliser des matériaux écologiques parce qu'on parle là de la santé d'un bébé. Du coup, ça va être du coton, du chanvre. Je sais que le plus écologique, ça va être du chanvre et en plus, avec les recherches que j'ai faites, je sais qu'il y a un champ une production de chanvre dans la région centre et pourquoi pas utiliser du chanvre par exemple. Mais il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs matériaux qui rentrent dans la confection de cette couche.
Effectivement, il y a plein de possibilités. Et justement, en parlant de possibilités, quand on parle de produits zéro déchet, je remarque que fleurissent sur le marché beaucoup de coton lavable, d'emballages réutilisables, de riculis. Donc je me demande, qu'en est-il des couches lavables? Est-ce que c'est un marché qui est moins développé?
Ben, en fait, il est développé en France. En France, quand on regarde à l'international, il est vraiment développé. En France, ça commence à se développer, mais il est plus dans le nord. En fait, j'ai remarqué que dans le nord de la France, la location de couches lavables, la location en plus, pas la vente, la location, elle est vraiment développée. Les crèches, il y a plusieurs crèches dans le nord qui utilisent le service de location de couches lavables. Mais tout ce qui est région centre, le centre de la France, c'est pas assez développé. Après, moi, ça m'intéresse parce que comme ça, au moins, je pourrais développer mon projet sur un terrain où il n'y a pas trop de concurrence.
D'accord, c'est pour ça que tu as choisi de te lancer plutôt dans l'industrie de la couche lavable plutôt que vers d'autres produits déjà existants, comme je disais, les cotons, ce genre de choses.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais.
D'accord. Et puis, où est-ce que se situe la petite fabrique maintenant dans son développement, si tu devais me dire une étape au niveau de la concrétisation du projet?
Là, elle est vraiment au début. On teste le projet. Là, on peut dire que c'est la partie test parce que l'idée est fixée, les acteurs qu'on va contacter sont. En fait, on a tout fixé, mais il nous reste juste à tester l'idée sur le terrain pour savoir, pour connaître la faisabilité du projet avant de se lancer directement dans le projet.
D'accord. Et quelles seraient les prochaines étapes du coup pour la petite fabrique après les tests ?
Après les tests, ça va être de former en fait les femmes, parce que vous savez, une couche lavable, on peut pas coudre une couche lavable n'importe comment. On doit répondre vraiment à un cahier des charges précis. Ça va être de former les femmes, de trouver ces femmes, de les former en même temps, de chercher en même temps de la matière première. Et voilà, c'est ça la première étape du projet.
Et pour la formation, pardon.
Oui, d'accord.
Pour la formation, tu vas faire appel à quel type d'acteur ?
Ça va être contacter une couturière professionnelle, en fait, pour former, parce qu'on va faire appel à des couturières qui existent déjà. Ça veut dire qu'elles maîtrisent déjà de la couture. Ça va être juste de les former à faire des couches lavables. Ça veut dire qu'on va faire appel à une couturière dans un premier temps. Et bien sûr, on va essayer de chercher des subventions, parce que le projet est assez grand, si vous voyez. Et du coup, pour former ces femmes, on va essayer d'avoir des subventions pour les former.
D'accord. Et pour finir, où est-ce que nos auditeurs peuvent découvrir les détails de ton projet ?
Alors, j'ai pas encore en fait lancé de site pour l'instant, mais voilà, ça va être fait prochainement. Vu que le projet ne s'est pas lancé, j'ai pas trouvé l'utilité de lancer maintenant un site pour ne pas voilà.
Bien sûr. Et ça sera sous le nom de la petite fabrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Farida.
Je t'en prie, merci.
Je vous propose maintenant d'écouter The Brain, un titre électrisant du groupe Poitevin Mute, issu de leur premier EP, une petite pépite musicale à la frontière entre rock alternatif et pop électro. The Brain is why.
The brain is deep and then it's Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
L'émission des initiatives jeunes, c'est All I Wanna Do.
Pulsar 95.9.
Ah ouais ?
Vous venez d'entendre le titre The Brain de Mute. On découvre tout de suite Arnaud Lenné et son atelier de travail du bois. Salut Arnaud.
Salut.
Alors, tu es le propriétaire de l'atelier bois de Nau, ton atelier de menuiserie cité dans la commune de Guizet, au sud de Poitiers. Un espace dans lequel tu donnes vie à des créations artisanales uniques. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le type de prestations et de produits que tu élabores ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, bonjour tout le monde. En fait, je suis menuisier, créateur donc mobilier et objets de bois décoratifs. Donc ça peut être des ustensiles de cuisine ou comme des superbes planches à découper que j'ai fait cette année pour Noël. Autant ça peut être complètement comme de la verrière, verrière bois sur mesure. Tout ce qui est en bois à l'intérieur, tout ce qui peut être fait en bois. Ça, je fais aussi du mobilier relooké, donc c'est-à-dire que c'est une revalorisation des meubles que chacun peut avoir et qu'il a envie de changer, de remettre au goût du jour, quoi. Et à côté de ça, pour vivre, bien sûr, je fais de la pose de menuiserie, donc pose d'huisserie, pose de cuisine, voilà.
Et est-ce qu'on parle de créations qui sont réalisées uniquement sur mesure ou est-ce que tu proposes un catalogue permanent ?
Alors j'ai les deux. J'ai un catalogue permanent forcément avec des éléments qui sont... recopiable, hein. Donc j'ai un patron, un gabarit, donc je peux les faire à l'identique quasiment. Et puis j'ai aussi je peux faire du sur mesure, sachant que j'ai un atelier avec tout ce qu'il faut comme machine. Et j'ai dans mon savoir-faire quelques techniques qui peuvent s'adapter à beaucoup de projets, quoi.
Et en plus d'être esthétique, j'ai remarqué que ton travail s'ancrait également dans une démarche éco-responsable. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi tes créations sont respectueuses de l'environnement ?
Alors, ça c'est vraiment mon objectif premier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une planche, je me dis que c'est vraiment dommage qu'un si bel arbre ou quoi soit coupé un peu inutilement. Puis on a beaucoup de pertes dans le milieu de la menuiserie. Donc, j'essaye de trouver des sources d'approvisionnement respectueuses de la nature. Donc, issues de forêts durablement gérées. Déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, quand une personne m'appelle pour couper un arbre, c'est arrivé quand même 3-4 fois, pour voir, pour lui faire, je sais pas, un saladier, faire quelque chose comme ça. Et puis, en général, je lui fais quand même poser la question 2-3 fois, parce que cet arbre, ça fait quand même des dizaines d'années qu'il est sur place. Il est là pour une bonne raison. Je dois dire que plusieurs fois, ces personnes ont changé d'avis et tant mieux. Ensuite, j'aimerais que chaque projet ait une part de la somme que je touche qui reparte à Reforest Action ou une action similaire pour planter un arbre en contrepartie de la matière utilisée pour le projet. Donc, je trouve que c'est la moindre des choses et ça s'inscrit totalement dans une démarche actuelle, quoi.
D'accord, donc on connaît maintenant ton engagement écologique très prégnant, mais qu'est-ce qui t'a poussé vers l'artisanat de base ?
C'est la rencontre essentielle avec des artisans, la rencontre du milieu artisanal. Ça s'est passé il y a 20 ans, ma première expérience professionnelle. Je suis tombé dans un chantier naval dans ma ville de résidence. Et en fait, ce chantier naval, c'était la première activité depuis un très long moment dans cette ville. Et ça a rassemblé énormément de personnes venues de tous horizons. Donc, Australiens, Pays de l'Est, vraiment de tous horizons. Et avec l'objectif commun, c'était restaurer ce vieux gréement, un vieux bateau en bois, un trois-mâts. Dans le port, il régnait comme un objectif commun et c'est resté pendant plusieurs années le pôle d'attraction de cette ville. Donc d'avoir participé à ce projet qui a tout redynamisé une ville, ça m'a conquis. Et en plus de voir tant de savoir-faire, c'est-à-dire que les artisans, en fait, je voyais des forgerons toute la journée, je voyais des ébénistes passionnés de leur métier. Ça m'a décidé à vraiment me former à ce travail, à devenir compétent pour ensuite proposer des créations originales et m'inscrire dans la lignée des artisans, quoi.
Et tu as parlé du fait que tu travaillais avec des personnes de tous horizons différents, mais il me semble que le voyage est également une forte source d'inspiration dans tes créations, non ?
Oui, c'est même essentiel. Disons que c'est ma source d'inspiration parce que, on remet toutes les bases à plat. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été élevé dans une famille d'artisans ni d'entrepreneurs. Donc, j'avais beaucoup de préconçus, beaucoup d'images préconçues sur ce milieu-là. Et donc, en voyageant, j'ai pu voir plusieurs horizons différents, plusieurs façons de voir, les façons de construire. Par exemple, en Thaïlande, ils construisent suivant où on se trouve en Thaïlande, bien sûr, mais ils construisent de manière peut-être un peu moins durable, on va dire, parce que les aléas climatiques sont plus violents. Ils savent que ça va moins résister au temps. Ensuite, y a d'autres objectifs, c'est-à-dire la Thaïlande est très touristique, donc ce sont des objectifs plus de décoratifs, et ça marche très bien. Moi, c'est, la Thaïlande, ça a été vraiment quelque chose par rapport au bois qui m'a conquis. On travaille beaucoup le bambou là-bas, et c'est une matière qui pousse très vite et qui est très très performante au niveau de la construction. Et je trouve que ça apporte une matière à réfléchir sur l'avenir, nous, comment on doit concevoir les constructions bois.
Et en plus de cet apprentissage via le voyage, comment est-ce que tu t'es formé en France à la menuiserie ?
Alors, je me suis sorti de cette expérience professionnelle à La Ciotat. Je suis rentré dans un CAP ébéniste directement. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, mon contrat s'est terminé en juillet et en septembre, je commençais mon CAP. Donc, je me suis formé avec des adultes. C'était une formation accélérée. Ensuite, je suis sorti de cette formation, j'ai continué sur la charpente de marine, qui était vraiment mon but ultime pour vraiment concrétiser cette première expérience professionnelle. Et donc, je suis allé à Douarnenez, en Bretagne, donc le fief. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont influencé. Et avec qui j'ai partagé des superbes moments, quoi. C'était pas juste une formation pour apprendre des techniques. C'est devenu vraiment ça m'a impliqué dans mes démarches éco-responsables et ensuite dans mon objectif qui aujourd'hui a quand même pas mal évolué.
Un parcours professionnel riche de rencontres donc et de formations. Mais pour finir rapidement, où est-ce que nos auditeurs peuvent consulter ton travail et faire appel à tes services?
Oui, bien sûr. Sur mon Facebook, donc l'atelier bois de No, donc N-O, c'est si facile. Ensuite, à Gizet, donc je me situe à Gizet, on peut me contacter par téléphone, mes coordonnées sont sur mon Facebook, et ensuite on peut venir à mon atelier, il n'y a aucun problème. On peut discuter de projets, je peux élaborer des dessins, concevoir des plans par ordinateur. Ensuite, je travaille avec des décorateurs, des architectes, donc... je peux aussi travailler en collaboration.
Merci beaucoup pour cette interview, Arnaud.
Merci à vous.
C'est maintenant au tour d'Ophélie Couret, notre interlocutrice à la mission locale d'insertion du Poitou, de nous proposer une chronique sur Team Job, l'initiative étonnante de sa structure permettant d'allier e-sport et intégration sociale. À toi le micro, Ophélie.
Oui, merci et bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une action qui risque de plaire à bon nombre et notamment aux gamers. Mais avant tout, si je vous disais que nos loisirs nous font développer des compétences qu'on peut valoriser dans le monde professionnel, vous me croyez? Et si votre passion pour le e-sport, par exemple, pouvait être en fait une force pour accéder à un job? Vous êtes un peu sceptique? Nous, à la mission locale, on en est convaincus. Alors on est parti de cette idée et on a décidé de monter une action qui vise à révéler les potentiels de jeunes décrocheurs passionnés de gaming. Alors si vous, votre fils, votre cousine ou même votre voisin a entre 16 et 25 ans et est déscolarisé, c'est le moment de tendre l'oreille et de potentiellement s'inscrire ensuite. C'est parti, je vous présente l'action Team Job. Alors Team Job, c'est plusieurs journées e-sport programmées du 1er mars au 21 juin. Chaque journée, des petits groupes de jeunes vont se rassembler autour d'une passion, les jeux vidéo. Ils vont alors se mettre dans la peau de joueurs e-sport pro et s'affronter dans des mini-tournois de jeux vidéo. Ils rencontreront même des joueurs des Orcs Grand Poitiers, la plus grande association de gamers en France. Ça en jette, hein? Ce sera l'occasion qu'ils partagent sur leur passion, qu'ils voient les compétences de chaque jeune joueur, leurs points forts, leurs points d'amélioration, etc. Car oui, des compétences, on en développe pas mal dans sa pratique du e-sport. L'écoute, l'esprit d'équipe, et j'en passe. Et ces compétences, on n'y pense jamais assez, mais elles sont transférables dans le monde du travail. Et c'est là que nous, Mission Locale, on intervient pour parler projet, orientation, formation, et aider les jeunes à construire un projet professionnel en fonction de toutes ces belles compétences. Comme quoi, jouer aux jeux vidéo, ça peut aussi aider à trouver sa voie. Ces journées, comme je l'ai dit, elles sont ouvertes aux 16-25 qui ont quitté le système scolaire. Elles auront lieu dans 4 communes de Grand Poitiers, Genet-Marigny, Chauvigny, Lusignan et Poitiers. Je ne vais pas pouvoir vous détailler les jours, les lieux et les horaires de chaque journée, mais dites-vous que sur chaque commune, 5 à 6 journées e-sport sont programmées d'ici le 21 juin et que vous avez tous les détails sur le site web de la mission locale d'insertion du Poitou. Et j'oubliais un truc super important. Les 4 meilleurs joueurs des 4 communes seront invités à s'affronter en live dans le cadre de la Gamers Assembly qui a lieu cette année du 3 au 5 avril 2021. Vous y croyez-vous? Alors si vous souhaitez vous inscrire à une de ces rencontres, il est encore temps. On limite les inscriptions à 12 joueurs par journée, alors ne tardez pas. Envoyez vite vos noms, prénoms, téléphone, email et commune choisie pour l'animation par email à l'adresse teamjob@orcs.fr. Tous ces détails pour l'inscription, là encore, ils sont notés sur le site web de la mission locale. Vous pouvez aussi nous contacter au 05 49 30 08 50 ou nous joindre sur le réseau Facebook, Twitter et LinkedIn. Et si Team Job était l'événement qu'il vous fallait pour rencontrer d'autres jeunes, partager votre passion du e-sport et avancer sur vos démarches professionnelles? On remercie l'association Futurolan qui organise chaque année la fameuse Gamers Assembly et qui nous accompagne dans l'organisation de Team Job. C'est en s'entourant des plus grands professionnels du e-sport que l'on est à même de proposer cette action plus qu'innovante. On attend vos inscriptions, à très vite et bonne journée!
Un grand merci Ophélie, on espère que les gamers seront nombreux à l'événement Team Job. Hola Iwanadou, c'est déjà fini, mais avant de laisser l'antenne à l'émission Séquence Midi, je vous propose de continuer à naviguer sur le synthé vintage de la batterie freaky du groupe Newt, cette fois-ci avec leur titre Obey Bob. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'émission, je laisse maintenant la place à Séquence Midi et vous dis à la semaine prochaine, à la même heure, sur Radio Pulpar.